Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je fais cet enregistrement le 5 avril. Et vous, comme nous, êtes confinés à la maison. J'apprécie tous les petits messages que vous avez envoyés aux uns et aux autres et que vous avez aussi échangés avec nous. Vous savez, garder le lien fraternel entre nous est tellement important. Et c'est vraiment réconfortant aussi de savoir que tous, nous pouvons compter sur les prières les uns et les autres. Dieu a déjà répondu à plusieurs de nos requêtes, n'est-ce pas? Et alors nous devons continuer à soutenir ceux qui souffrent. Comme dit la Bible, nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Pasteur Nicolas m'a demandé de participer aux prédications. Et il y a quelques semaines, je vous ai parlé de Moïse dans son enfance. Un des personnages les plus importants de la Bible est justement Moïse. D'ailleurs, c'est sa grandeur qui surprend, car les circonstances autour de sa naissance ne nous auraient jamais fait imaginer le rôle incroyable qu'il allait avoir à l'âge adulte. Ses parents étaient de modestes esclaves. Et le roi d'Égypte avait mis la tête des bébés garçons juifs à prix. Comment Moïse a-t-il pu déjouer tous les pronostics? Il ne devait pas vivre au-delà de quelques semaines. Nous avons remarqué que c'était parce que Dieu était à l'œuvre, et en lui, et dans les circonstances de sa vie. Souvenons-nous qu'il lui a donné une beauté et un tempérament exceptionnels, ce qui était reconnu par ses parents, par la fille du roi et aussi par Dieu lui-même. Dieu l'a aussi fait naître des parents qui avaient une foi active et courageuse. Et puis, l'Éternel a poussé la fille du pharaon à aller se baigner ce jour-là et à l'endroit même où la corbeille allait se prendre dans les roseaux. Elle a remarqué et a tout de suite pris en affection ce bébé maudit par les hommes, oui, mais beau aux yeux de Dieu. Et elle a accepté que Myriam aille chercher la maman même de Moïse pour l'allaiter, en proposant de la payer pour ses services. On peut parler des circonstances, mais je crois que ça en fait beaucoup, pas vous? Ensuite, elle a su convaincre son père, qui avait demandé que l'on tue tous ses enfants, à la laisser élever Moïse comme son propre fils. Enfin, Moïse a grandi dans le palais royal et il a reçu une des meilleures éducations que le monde pouvait offrir à un futur dirigeant de nation. Des années plus tard, lorsque Moïse a écrit la Genèse, il a relaté ce que son ancêtre Jacob avait dit avant de mourir, disant « Dieu m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour » Genèse 48:12. Je crois que lorsque Moïse a pris la plume pour écrire ces mots sous l'inspiration de l'Esprit, il a dit très fort « Amen ». C'est ce qu'il a fait pour moi aussi. Oui, sans aucun doute, Dieu était à la manœuvre dans la vie de Moïse. C'est formidable de voir comment Dieu peut former quelqu'un pas après pas, expérience après expérience, pour le rôle que Dieu veut qu'il joue dans son plan. Jeunes, je veux vous encourager à croire, non pas seulement que Dieu a une volonté propre pour votre vie, mais qu'il est déjà à l'œuvre en vous, vous donnant des expériences qui vous formeront, si vous les suivez, pour l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour vous. Alors, faites-lui confiance, cherchez sa face, faites de votre mieux les choses que vous devez faire, et puis, suivez le Seigneur avec confiance. Aujourd'hui, nous retrouvons Moïse au moment qu'il a pris une décision qui allait avoir des conséquences importantes pour toute la suite de sa vie. Il s'est trouvé dans une situation où il devait décider qui il était vraiment. Et vous, qui êtes-vous? Qui aimeriez-vous être? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Quelles sont vos ambitions? Ce sont des questions que tous les jeunes se posent, mais pas seulement les jeunes. Pas mal d'adultes aussi cherchent aujourd'hui une nouvelle orientation. En regardant la télé, je vois que certains citadins veulent déménager à la campagne, par exemple. Des ingénieurs qui travaillent dans les bureaux et des laboratoires veulent trouver une vie plus simple. Vous savez, nous pouvons découvrir, après plusieurs années, que nous n'aimons plus notre travail. Moïse avait 40 ans quand il a pris sa décision. Il n'était donc plus simplement un jeune peu expérimenté avec des idées de grandeur plein la tête. Je me souviens des questions que j'avais moi-même à l'époque où je venais de recevoir mon bac. Je me suis rendu compte alors que, jusque-là, j'avais suivi ce que les autres m'obligeaient à faire, surtout mes parents, mais aussi mes professeurs. Si quelque chose foirait alors, je pouvais au moins dire que c'était leur faute. Mais là, à la fin de mon lycée, je devais choisir pour moi-même et en assumer les conséquences. Qu'est-ce que j'allais faire? Moïse suivait depuis pas mal d'années une vie active qui avait été tout tracée pour lui. Et cela marchait plutôt bien. Qu'est-ce qui lui est arrivé alors pour le pousser à prendre une nouvelle direction et identité? Eh bien, nous trouvons cet épisode dans les trois textes bibliques d'Exode, des Actes et de l'Épître aux Hébreux que nous avons vu déjà dans le premier message. Alors, Exode, chapitre 2, versets 11 à 15, est le récit autobiographique dans lequel Moïse livre, en quelque sorte, son témoignage personnel. Voilà ce qu'il écrit. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce que s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Nous allons nous arrêter là, dans cette lecture, et puis, dans Actes chapitre 7, versets 23 à 29, Étienne, le premier martyr de l'Église, a aussi raconté ce même épisode. Parlant donc de Moïse, il dit que il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on l'outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais il ne comprit pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra deux fils. Et enfin, nous lisons dans Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 27, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Dans ce dernier texte, nous voyons que l'accent est mis sur la foi de Moïse. Il agissait par la foi. Et c'est sa foi qui l'a fait choisir une nouvelle orientation et une nouvelle identité. Mais sa foi est décrite par trois verbes d'action. Moïse refusa, ensuite il préféra, et troisièmement, il regarda. Examinons ces trois verbes et demandons-nous si nous aussi nous avons une foi active. Tout d'abord, par la foi, Moïse refusa. Refuser signifie renoncer à quelque chose, la rejeter, ne pas l'admettre ou ni l'accepter. Il exprime un sentiment fort et un acte définitif. Mais pourquoi Moïse voudrait-il renoncer à être appelé le fils de la fille du roi? C'était quand même une bonne situation. La Bible affirme que Moïse l'a fait effectivement par la foi. Il croyait donc que Dieu avait un plan pour sa vie, un plan qui l'obligeait à s'identifier avec son vrai peuple, non pas avec les Égyptiens. Deux fois dans son témoignage, dans Exode 2, Moïse appelle les Hébreux ses frères. Et Étienne ajoute qu'il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Acte 7:25. Moïse comprenait que son avenir n'était pas de diriger la nation égyptienne, ce qui n'aurait pas été une mauvaise vocation en soi. Après tout, son ancêtre Joseph était conduit par Dieu à gouverner l'Égypte. Mais ce n'était pas son plan pour Moïse. Souvenez-vous que dans le premier message, nous avons souligné le fait que Dieu ne fait pas de clones. À différentes époques, donc, il s'est servi et de Joseph et de Moïse dans le même but de sauver son peuple, mais pas de la même manière. Joseph a commencé son temps en Égypte comme esclave et l'a terminé dans un palais. Par contre, Moïse, lui, a commencé dans un palais et a choisi de s'identifier avec un peuple esclave. Joseph allait du déshonneur vers la gloire, alors que Moïse a refusé la gloire et a choisi l'opprobre. Moïse ne connaissait certainement pas tous les tournants de sa vie future, mais il savait une chose. Le plan de Dieu à cette époque concernait son peuple, le peuple juif, et il fallait donc qu'il s'identifie clairement avec lui afin de le délivrer. Aujourd'hui, l'Église est au centre du plan et l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, n'est-ce pas, « Je bâtirai mon Église ». Et c'est ce qu'il fait, en nous intégrant dans son œuvre. Il y a autant de manières de servir Dieu qu'il y a de membres dans un corps humain. Mais c'est Dieu qui nous place dans le corps de Christ comme il le veut. Et tous, nous sommes donc importants. On peut donner volontiers à certains membres comme un Joseph, plus d'honneur, mais nous devons tous choisir, comme Moïse, de suivre Dieu selon les capacités et les opportunités qu'il nous donne pour accomplir son œuvre. Quand j'étais jeune, j'étais attiré par plusieurs métiers. Je voulais par moments être médecin, ou pilote d'avion, ou autrefois boulanger, entre autres. Vous savez, quand on est jeune, on pense pouvoir tout faire, n'est-ce pas? Mais j'ai vu en grandissant que la main de Dieu avait toujours été sur moi pour me conduire en France, pour le servir comme missionnaire. Alors j'avais un choix à faire. Et vous savez, je ne regrette pas du tout d'avoir refusé mes propres ambitions pour suivre le plan de Dieu. Le deuxième verbe qui décrit la foi de Moïse est « préférer ». Il refusa et il préféra. Ce verbe préférer signifie que Moïse avait fait un choix entre deux choses. Quelles étaient ces choses? Je lis, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Voyez-vous, Moïse devait choisir entre ce que nous appellerions aujourd'hui deux qualités de vie. D'un côté, il y avait la maltraitance, En voyant l'Égyptien outragé et maltraité son frère, Moïse voyait très bien ce que son avenir pouvait lui réserver. De l'autre côté, il y avait la jouissance. Maltraitance ou jouissance? Qui ne choisirait pas le bonheur? Beaucoup de personnes qui se disent aujourd'hui chrétiens pensent que Dieu leur a promis et qu'ils peuvent donc s'attendre à la richesse, la santé, le succès professionnel, la protection, etc. Mais ce n'était pas ce que voyait Moïse. La jouissance qu'il voyait était du côté du péché, et n'était que pour un temps. Dieu peut, j'en suis convaincu, Dieu peut nous donner des joies, et il en donne. Beaucoup plus que ce que nous méritons. Et si c'est son plan pour nous, nous devons nous en réjouir. Mais ce n'est pas garanti pour tous les croyants. Pensez aux prophètes, par exemple. Dieu a averti plusieurs d'entre eux qu'ils ne seraient pas du tout écoutés. Hébreux 11 est comme une galerie d'hommes et de femmes de foi que nous admirons. Mais ce chapitre dit bien que, je cite, « la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Verset 11. Il parle aussi de Abel qui a été assassiné, de Noé qui a traversé un déluge, d'Abraham et de Sarah qui devaient quitter leur patrie et qui ont vécu dans une terre qui leur était promise, d'accord. Mais ils y vivaient comme des étrangers. Ce chapitre continue en disant que, je cite, « c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises », verset 11. L'auteur de ces lignes confesse que le temps lui manquait pour parler d'autres héros de la foi de l'Ancien Testament, dont certains, il dit, ont lutté contre des royaumes, des lions, le feu et l'épée. Entre ces croyants, il y en avait qui, je cite, furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Si Moïse a fait le choix de se tourner le dos aux jouissances du péché, c'est parce qu'il voyait autre chose beaucoup plus importante pour lui, c'était s'identifier avec un peuple maltraité. Et c'est le cas parfois avec l'Église aujourd'hui, avec des croyants. Dans certains pays, ils sont maltraités, persécutés. Mais avec qui allons-nous nous identifier? Pour Moïse, le choix était tout fait. Le troisième verbe qui décrit la foi de Moïse est « regarder ». La foi refuse, elle préfère, elle fait un choix donc, et elle regarde. Ce mot « regarder » signifie conduire quelque chose devant les yeux, en lui donnant une valeur. D'ailleurs, certaines versions traduisent ce mot par « estimer ». Regarder donc, c'est bien plus que simplement voir ou remarquer. Les scientifiques disent que nos yeux voient tout dans leur champ de vision et que ce que nos yeux captent est interprété dans la suite par le cerveau. Mais le cerveau ne peut donner la même attention à tout ce que les yeux voient. Alors il sélectionne en donnant plus d'importance à certaines choses qu'à d'autres. Par exemple, avant ce confinement, lorsque nous allions à la salle de culte, nos yeux à nous tous, ont capté l'ensemble des éléments dans la pièce. Mais certains d'entre nous regarder la propreté peut-être. D'autres remarquaient que telle ou telle personne n'était pas à sa place habituelle. Et puis d'autres encore étaient attirés par le groupe de louanges qui répétait. C'était mon cas. Mais vous savez, tout ça c'était volontaire. Nous orientons notre attention sur certaines choses aux dépens d'autres qui nous intéressent moins. C'est par ce mot « remarquer » que nous découvrons ce qui était le plus important pour Moïse, ce qu'il avait volontairement mis sous les yeux et choisi. Je cite, « Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Pour Moïse, l'opprobre de Christ et sa rémunération future étaient des richesses. Cet opprobre n'était pas seulement dans le regard des autres, ni dans les propos désobligeants, ce peut nous arriver quelquefois. Mais l'opprobre dont il était confronté s'exprimait dans les traitements injustes et durs. Le pharaon cherchait à tuer tous les enfants mâles des Hébreux. Il accablait aussi les jeux des adultes d'un travail pénible, ce qui allait s'intensifier même. Mais pour Moïse, cet opprobre était comme une richesse. Mais comment devons-nous comprendre l'expression « l'opprobre de Christ » Moïse vivait plus de 1500 ans avant la naissance de Jésus. Il ne le connaissait donc pas, ni ce qu'il allait faire, ni comment il allait être traité. Comment pouvait-il regarder, mettre sous les yeux l'opprobre de Christ ? Tout d'abord, le mot « Christ » signifie « loin ». Quand il est employé pour une personne, il signifie que Dieu l'a appelé et qualifié pour son service en lui donnant son esprit. Dieu demandait souvent, mais pas toujours, que l'on verse de l'huile sur la tête de la personne qu'il avait choisie. On disait donc que cette personne était loin. Et tout au long de l'histoire, Dieu avait des serviteurs qui loignaient. En particulier, il y avait des sacrificateurs, mais des rois aussi, même quelques rois étrangers, comme Cyrus. Et puis, il y avait des prophètes. La Bible dit que Moïse pensait que Dieu allait délivrer son peuple par lui. Il comprenait sans doute donc que c'était lui, loin de Dieu, le Christ de son époque. S'il avait raison en cela, il se trompait lourdement sur la manière duquel Dieu allait l'utiliser pour effectuer cette délivrance, et aussi le moment qu'il allait le faire. Par contre, il avait raison d'imaginer que choisir d'agir en faveur de ses frères ne manquerait pas d'attirer sur lui l'opprobre du pharaon et des Égyptiens. Mais pour Moïse, choisir le plan de Dieu était une richesse. C'était choisir ce qui est éternel plutôt que le temporaire. La sainteté plus que le péché. Si cette explication est correcte, l'opprobre de Christ était celui que Moïse allait lui-même connaître. Mais il y a aussi peut-être une autre explication. Que Moïse était un prophète et que Dieu lui a permis de voir l'avenir des Hébreux jusqu'au dernier temps, il est possible qu'il sache qu'un jour, le Christ divin allait venir, celui que lui, il appelait un prophète comme moi, qu'on devait écouter. Deutéronome 18, 15 à 19. Dans ce sens, Moïse aurait regardé comme une richesse tout ce qu'il devait endurer comme opprobre afin que l'histoire de la rédemption puisse s'achever en cet autre prophète. Jésus devait accomplir tout ce qui était écrit de lui dans la loi et les prophètes. Sinon, il ne pouvait y avoir de salut ni pour Moïse, ni pour le peuple juif, ni pour vous, ni pour moi. Il ne nous serait resté que les plaisirs du péché pour un temps, après quoi, selon Hébreux 9, 27, vient le jugement. Et dans ce sens, participer au salut éternel était une plus grande richesse pour Moïse que tous les trésors de l'Égypte. Vous savez, une rémunération, c'est comme le salaire que l'on reçoit pour son travail. L'œuvre de Moïse était d'abord de libérer son peuple, et puis d'écrire la Torah, la loi, les 5 premiers livres de la Bible. Moïse a fait les deux, nous donnant d'un côté une illustration dans sa vie, et de l'autre côté une promesse dans ses écrits de cette rédemption à venir. Il connaissait les promesses que Dieu avait faites aux patriarches, que toutes les nations de la terre seraient bénies en la postérité d'Abraham. Et la rémunération de Moïse était de savoir qu'en acceptant le plan de Dieu pour sa vie, il allait participer à l'accomplissement de ses promesses en Jésus-Christ. Hélas, Moïse est mort sans voir la réalisation de tous ses espoirs. Mais des années plus tard, nous le retrouvons dans la Bible, vivant dans la gloire avec le prophète Élie et Jésus. Ils étaient sur le monde, ce que nous appelons le monde de la transfiguration. Selon l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 31, les trois, Jésus, Élie et Moïse, discutaient entre eux. Mais savez-vous de quel sujet ils discutaient? Luc dit qu'il, je cite, parlait de son départ, celui de Jésus, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Curieusement, le mot « départ » que Luc emploie est le mot « exode » en grec. C'est normal que les trois donc en discutent. Moïse, lui, avait conduit un exode pour le peuple juif pour qu'il parte d'Égypte, ce qui était une préfiguration de notre rédemption en Jésus-Christ. Élie est parti, il a fait un exode personnel, partant directement au ciel sans mourir. Et là, c'est peut-être une image de notre ascension avec Christ par lequel nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et Jésus, eh ben, c'est lui qui allait achever l'œuvre par laquelle nous sommes effectivement délivrés de nos péchés et vivons dans l'attente de notre réunion avec Dieu au ciel. Personnellement, je pense que Moïse était content, qu'il se réjouissait même d'avoir pu avoir une petite part dans le plan de rédemption. Vous pouvez aussi avoir cette même joie, mes amis. Le choix est à vous, comme il était à Moïse. C'est vrai. Vous pouvez devenir un chef d'entreprise, un grand sportif, un artisan renommé, par exemple, sans choisir de croire en Dieu et le suivre. Mais attention, cette grandeur-là, si Dieu vous la permet, et les joies que vous pouvez y associer, ne seront que pour un temps. Et souvent, on ne les obtient que par des compromis, par des péchés. Ne voudriez-vous pas plutôt travailler pour ce qui compte pour l'éternité, comme Moïse? Car l'éternité viendra, mes amis. Vous rencontrerez alors Dieu et recevrez une rémunération pour tout ce que vous aurez fait. Il est donc important de chercher Dieu aujourd'hui, pendant qu'il se trouve, et de choisir de vous identifier avec lui, avec son peuple, pour accomplir sa volonté. Que Dieu vous bénisse.